14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
J'ai promis à mon fils que jusqu'au bout, je ne céderai pas. Chaque fois que je vais au cimetière, je dis Cyril, maman va se battre. Cyril, maman va se battre.
Bonjour, c'était il y a 35 ans, le dimanche 28 septembre 1986 à Montigny-lès-Metz. Les corps de deux garçons de 8 ans, Cyril Bénin et Alexandre Beckrich, étaient découverts assassinés. Le début d'une affaire judiciaire sans précédent dans laquelle la justice va emprunter de mauvaises routes, se retrouver dans des impasses, condamner un innocent Patrick Dils et trop longtemps balbutier pour dévoiler le visage d'un coupable. Au final, ce sera celui de Francis Holm, le routard du crime, comme on le surnomme. Francis Holm porte donc aujourd'hui sur ses seules épaules l'abominable tragédie de Montigny-lès-Metz. Même si 35 ans après, le trouble demeure, des questions restent en suspens. Et en premier lieu, celle-ci. Holm était-il vraiment tout seul pour ôter la vie aux enfants? La piste du deuxième homme peut-elle être totalement écartée? Ce double crime cache-t-il encore des secrets? Autant d'interrogations que nous allons passer en revue aujourd'hui avec nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, le double meurtre de Montigny-lès-Metz et l'ombre de Francis Holm, affaire qui commence dans cette commune limitrophe de Metz à l'été 1986 avec une abominable découverte. Ce dimanche 28 septembre 1986, Cyril Bénin et Alexandre Beckrich, tous deux âgés de 8 ans, ont décidé d'aller jouer sur le talus de la SNCF dans le quartier de la rue de Venizelos à Montigny-lès-Metz. Cette butte, plantée d'arbrisseaux et de broussailles, encombrée de quelques wagons de marchandises désaffectés, est le terrain de jeu favori des enfants du coin. Cyril et Alexandre habitent tout à côté. Ils ont pris leur vélo. À 17h15, un couple les a vus déposer leur bicyclette et grimper sur le talus, le dernier signe de vie des deux garçons. Vers 19h20, alors que le soir commence à tomber, la mère d'Alexandre, inquiète, se manifeste. Les vélos n'ont pas bougé. Une demi-heure plus tard, les enfants sont découverts morts sur le talus. Le décor est insoutenable. Les gendarmes constatent que les deux victimes ont été massacrées à coups de pierre. La première constatation, c'est le déchaînement de violence. J'ai fait beaucoup de scènes de crime. Je n'en ai rarement vu de telles, se souviendra le lieutenant-colonel de gendarmerie Francis Hans. Alexandre Beckrich a eu la boîte crânienne éclatée. Son pantalon et sa culotte sont baissés en bas des cuisses. Cyril Bénin repose, lui, sur une traverse de chemin de fer, le crâne enfoncé de 10 cm. Mettre dans le sol. À 20h30, le médecin légiste évalue au toucher, il n'a pas de thermomètre. L'heure du décès, à moins de 3 heures, dit-il. Il ne peut pas être beaucoup plus précis. L'enquête de voisinage commence. Aucun témoin direct des faits. Sur ce site, légèrement excentré, personne n'a vu ou entendu quoi que ce soit. Le SRPJ de Metz pense à un crime de voisinage. Une ou plusieurs personnes qui connaissent bien le coin et ont pu suivre les enfants. Parmi trois hommes entendus au mois d'octobre figure un certain Patrick Dils, 16 ans, un jeune apprenti cuisinier, un voisin des Beckrich et des Bénin. Il a l'habitude de venir traîner dans le coin. Il vient fouiller dans les bennes à ordures pour y chercher des enveloppes et décoller les timbres dont il fait collection. Dils est relâché, mais l'inspecteur Bernard Varlet, en charge du dossier au SRPJ, le reconvoque au mois de décembre. Un couple est formel. Il dit avoir entendu des pleurs d'enfants le soir du crime et surtout avoir aperçu l'apprenti cuisinier. Témoignage qui s'avérera inexact, mais qui est retenu. L'inspecteur Varlet dispose également des confidences d'une personne dont il ne veut pas révéler le nom, mais qu'il a mis sur la piste de Dils. 30 heures de garde à vue pour Patrick Dils, qui craque. Il avoue avoir frappé sans raison les enfants à coups de pierre. Il ne peut pas dire pourquoi. Il était dans un état second. « C'est comme si ce n'était pas moi », dit-il, aveu réitéré auprès de la juge Mireille Maubert. Mai 1987, Patrick Dils est inculpé d'homicide volontaire, incarcéré à la prison de Metz. Peu importe que Patrick Dils se rétracte et indique avoir avoué pour avoir la paix. Peu importe que la reconstitution n'ait pas été concluante, l'apprenti cuisinier étant incapable de situer l'emplacement des corps. Nous sommes passés à deux reprises à l'endroit du meurtre sans que l'accusé s'arrête et dans une indifférence totale, est-il noté dans le procès-verbal. Peu importe encore qu'à l'heure du crime, Patrick Dils était en voiture avec ses parents de retour d'une journée passée à la campagne. Où qu'il soit, selon les experts, une personne vulnérable avec l'âge mental d'un enfant de 8 ans. Le 27 janvier 1989, Dils est condamné à la perpétuité. Fait rarissime, la cour lui refuse l'excuse de minorité souvent accordée aux jeunes criminels. Ses avocats vont se battre pour obtenir la révision du procès, mais la cour de cassation refuse à deux reprises. « Il n'existe aucun élément de nature à douter de la culpabilité du condamné », écrivent les juges. Il faudra donc attendre l'apparition d'un certain Francis Holm pour que l'affaire change du tout au tout. On va bien sûr parler de Francis Holm et très longuement dans cette heure du crime, mais pas tout de suite. On est là au début de l'affaire et c'est vous qui allez ouvrir le feu, si je puis dire. Nicolas Bastuc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef au service société de l'hebdomadaire Le Point. Et à l'époque, vous aviez suivi cette affaire pour le journal Le Quotidien, l'Est républicain, le grand quotidien de Nancy. Alors, on a affaire à une scène de crime quasiment insoutenable, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette scène? C'est un acte de folie pure, presque.
Oui, un acte cruel, barbare, et un déchaînement de violence inuit, puisque l'un des deux garçonnets, ils avaient 10 ans à l'époque, tous les deux, eh bien, on a retrouvé son cadavre enfoncé dans
le sol. C'est ça. Hein.
Voilà. Et puis un procédé assez inhabituel, puisque les deux enfants sont morts par lapidation, donc frappés à coups de pierre, ce qui est une signature criminelle assez singulière.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de coup d'arme blanche, etc., ou d'arme à feu. Hein. On est bien d'accord, cette scène de crime, elle est presque comme le crime de la préhistoire, j'ai envie de dire. Hein. C'est ça.
Oui, quelque chose de très archaïque. Pas de traces de violence sexuelle non plus, de viol ou d'agression sexuelle. L'un des deux enfants a simplement le pantalon à demi abaissé.
Comme si on avait voulu lui donner une ultime correction, hein, c'est un peu ça.
Hein, peut-être.
En tout cas, ça y ressemble. Est-ce que, selon vous, parce que là, ça va être une des questions centrales aussi, on se dit d'abord qui a fait ça, évidemment, mais est-ce que ça peut être le crime d'une ou plusieurs personnes? On ne sait pas.
On ne sait pas, mais on peut raisonnablement penser que deux personnes ont dû s'associer pour commettre ce crime effroyable, parce que quand même, tenir en respect deux garçons qui étaient réputés pour être des garçons dynamiques, vifs, assez solides, eh bien, un seul homme, peut-être que ça ne suffit pas.
C'est ça. C'est-à-dire que quand vous dites tenir en respect, l'un des deux aurait pu partir, finalement.
Aurait pu se sauver, se débattre, alerter les secours. Voilà. Or, les deux petits cadavres sont retrouvés côte à côte. Sur le ballast que vous évoquiez.
Que dit l'enquête au début? Comment ça fonctionne? C'est le SRPJ de Metz, je crois, qui s'est emparé de cette histoire.
Hein. Donc, oui, qui est saisi.
Une enquête de voisinage, c'est ça?
Une enquête de voisinage. Il faut souligner la... Alors, j'étais pas encore journaliste à cette époque. Moi, je suis arrivé un petit peu plus tard, notamment pendant toute la phase de révision. Mais aussi, j'étais là quand Patrick Dils a été jugé en 89, de mémoire. Une émotion terrible à Montigny-lès-Metz, en Moselle, dans ce territoire proche de la frontière. Beaucoup d'émotions, et puis il faut le dire aussi, une certaine fébrilité et des services de police pressés de mettre un nom sur ce crime horrible.
C'est toujours le problème avec ce genre de crime, c'est qu'il y a une pression sur les équipes policières ou de gendarmes d'ailleurs qui est vraiment intense. Et là il faut absolument trouver le coupable. C'est impossible qu'il passe à travers des mailles. Vous connaissez bien ce lieu, cette butte de la SNCF. Dites-nous à quoi ça ressemble et pourquoi finalement on n'a rien vu, rien entendu.
C'est une petite commune qui touche Metz, hein, enfin une petite ville qui touche Metz, qui s'appelle Montigny-lès-Metz. On est vraiment dans la même agglomération. Ça ressemble à une petite impasse, la rue de Venizelos, où habitaient les enfants, mais aussi Patrick Dils, on y reviendra sans doute plus tard.
Bien sûr.
Et puis cette petite rue est surplombée, effectivement, d'un talus SNCF où passent les voies. Mmh. Et donc c'est au sommet de ce talus que les deux enfants ont été retrouvés morts et ont été assassinés ce 26 septembre. 86, 28 septembre 86. 26.
Alors il y a deux personnes finalement qui vont avouer.
Oui. Hein,
Patrick Diels, on l'a dit, hein, qui va se retrouver lui en prison et qui sera jugé.
Oui, mais alors lui c'est la troisième personne à avouer.
Alors donc oui. Vous allez nous dire, il y a une autre personne aussi, c'est le fameux Henri Leclerc. Mm-hmm. On va y revenir dans cette émission. Il y a une troisième personne aussi.
Oui, et Grabeau aussi, hein, dénommé Grabeau.
Les deux lui m'a échappé, je vous avoue tout de suite.
Voilà, les deux ont été mis hors de cause, notamment Henri Leclerc, parce que lors d'une reconstitution ou en tout cas d'un transport sur place, il a été incapable d'escalader le talus. Moi, on y reviendra plus tard sur la procédure en révision, mais l'élément qui pour moi plaide le plus en faveur de l'innocence de Patrick Diels, ce sont les trois PV d'audition des trois personnes qui, sous les questions de l'inspecteur Varlet, ont avoué. Et une consoeur que je salue peut-être si elle nous écoute, Brigitte Vital-Durand, qui à l'époque était à Libération, qui a fait d'ailleurs, je crois, un livre sur l'affaire, une bande dessinée, elle a repris les trois PV et elle en a fait une espèce d'étude de fond et elle a relevé que des pans entiers des aveux, des PV d'aveux, étaient quasiment mot pour mot les mêmes. Mmh. Voilà. Alors vous connaissez la différence entre le gardé à vue et l'inspecteur de police. Ben, c'est l'inspecteur de police qui tape à la machine. Et ça, c'était vraiment pour moi l'élément le plus troublant.
Patrick Diels va passer 13 ans en détention avant d'être enfin acquitté et libéré. Tous les regards vont alors se braquer sur le dénommé Francis Holm, tueur en série itinérant qui était sur place quand les deux enfants ont été tués. En cette année 1992, le maréchal des logis-chefs Jean-François Abgral entend à la prison de Brest le dénommé Francis Holm qui sera bientôt baptisé le routard du crime. Le gendarme Abgral souhaite obtenir des informations sur un homicide, celui d'Aline Pérez, une aide-soignante de 49 ans tuée de 3 coups de couteau en 1989. Abgral connaît ce Holm qui fait des récits souvent hallucinés et à la troisième personne exprime des bribes de souvenirs qu'il faut sans cesse interpréter. Ce jour-là, Holm raconte ainsi une promenade à vélo le long d'une voie ferrée dans l'est de la France et deux enfants qui lui jettent des pierres. Le serial killer ajoute qu'en repassant un peu plus tard, il se souvient avoir vu deux petits corps couchés près des wagons, non loin d'un pont. Il précise avoir vu une rue, un talus sur la droite. Il dit être revenu en arrière pour corriger les enfants et indique qu'ensuite, il y avait des policiers et des pompiers partout. Le gendarme Abgral est dans l'expectative. Aucun théâtre de crime ne correspond à ce récit. L'affaire de Montigny-les-Metz a été jugée. Elle ne figure plus dans les bases de données police-gendarmerie. Des années vont ainsi s'écouler avant que progressivement un lien soit établi entre Holm et le double crime de Montigny. En 1999, le tueur en série est à nouveau interrogé. Il dessine un plan qui correspond au lieu. Suffisamment de doutes pour permettre la révision du procès de Patrick Diels. Les gendarmes soulignent que le mode opératoire correspond à celui de Holm. Quant à la scène de crime, le talus de chemin de fer, c'est le genre d'environnement qu'affectionne le criminel Francis Holm. A encore pour habitude de détruire ses victimes. En avril 1989, le petit Joris Viville, 9 ans, était mort étranglé et avait reçu 80 coups de tournevis. Le moindre détail, le moindre mot peut déclencher chez l'intéressé une rage meurtrière. 3 avril 2001, la cour de révision annule donc la condamnation de Patrick Diels. Nouveau procès ? Mais à la surprise générale, Patrick Diels est de nouveau condamné. 25 ans de prison. Le doute est alors dans tous les esprits. Rejugé en avril 2002 à Lyon devant la cour d'assises des mineurs du Rhône, Diels est enfin acquitté, aussitôt libéré. La justice s'est trompée et a laissé croupir un innocent en prison pendant 13 ans. Le double crime de Montigny-les-Metz n'a plus de coupable. Mais pour les gendarmes, aucun doute. Selon eux, Francis Holm est bien derrière les morts des deux petits garçons. Il est établi que le tueur en série était employé à l'époque comme manœuvre sur un chantier de Montigny-les-Metz, à 400 mètres seulement du talus SNCF. Depuis juillet 2001, les enquêteurs disposent en outre d'un nouveau témoin capital, Joachim Cadette, affirme que le 28 septembre 1986, il revenait vers 18h50 d'une partie de pêche avec son beau-frère. Ils ont alors rencontré un homme qui ressemblait trait pour trait à Holm. Il titubait avec du sang sur le visage. L'individu disait avoir chuté sur des cailloux. Un autre témoin, tardif, un enfant, indique lui avoir reconnu Holm sur un vélo. Holm est mis en examen en 2006, mais le juge d'instruction estime qu'il n'existe pas de charge suffisante pour renvoyer le suspect devant une cour d'assises. Le dossier est selon lui trop fragile. Il ne dispose d'ailleurs même pas des scellés du double crime détruit après la condamnation de Dils. Non-lieu en décembre 2007, c'est la douche froide. Seule la famille du petit Cyril Bénin fait appel de cette décision. Francis Holm n'a jamais prononcé d'aveu dans cette histoire. Il dément même avoir tué. Son mode opératoire, répète-t-il, c'est l'étranglement et l'opinel, mais pas le caillassage. Et il faudra donc encore attendre 6 ans, 6 longues années pour que Holm soit renvoyé devant une cour d'assises. Renvoi obtenu grâce à l'acharnement, j'ai envie de dire comme ça, de la famille Bénin. Nicolas Bastuc, journaliste au Point et qui connaissait bien cette histoire. Sans cette famille, sans cet acharnement, ce procès, Holm n'aurait sans doute jamais eu lieu.
Oui, je dirais plutôt de l'opiniâtreté. Mm-hmm. Et il en a fallu de l'opiniâtreté pour effectivement aboutir au procès de Francis Holm, puisque vous l'avez dit, Patrick Dils a été acquitté de ce double crime en révision au terme de 3 procès en 2002. Et ce n'est qu'en 2014, de mémoire, que le premier procès de Francis Holm interviendra pour plein de raisons. Des magistrats qui voulaient garder le dossier par-devers eux, d'autres qui n'y croyaient pas, ont prononcé un non-lieu, effectivement. Et c'est l'opiniâtreté de Madame Bénin, de son avocate, Dominique Beaupetit, qui ont fini par payer, entre guillemets, en tout cas, aboutir à ce procès.
Mais tout de même, Nicolas Bastuc, le juge d'instruction l'a dit à l'époque, il n'y a pas assez d'éléments, on ne renvoie pas. C'est une réalité, non, pour l'instruction à ce moment-là?
Bah, écoutez, si vous voulez mon avis, je suis en désaccord avec cette décision. Et pour avoir suivi quand même un certain nombre de procès d'assises, je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de dossiers où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de charges dans les dossiers.
D'accord. Donc le fait est, c'est que Holm va être renvoyé, évidemment, devant les assises. On a en ligne maître Liliane Glock. Bonjour maître Glock.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate historique, j'ai envie de dire, et depuis des années de Francis Holm. Là, on n'est pas encore au procès, on va en parler dans un petit moment, dans les chapitres suivants. Votre client, Francis Holm, dès le début, il ne reconnaît absolument rien dans ce crime. Ce n'est pas lui.
Tout à fait. Et c'est quelque part original parce qu'il a quand même reconnu un certain nombre de choses. Hein. Même s'il est revenu sur certains aveux, si vous voulez, dans pas mal d'affaires, il reconnaît. Il dit, bah oui, ok. Au moins, il dit, j'étais là. Bon. Et dans cette affaire-là, en effet, il a toujours contesté et il conteste toujours. Hein.
Oui, il n'a jamais varié dans ses explications. Ou pas d'explications, comme on voudra, puisque effectivement.
Pas d'explication. Les explications négatives, c'est difficile. Hein.
Oui.
C'est difficile de prouver qu'on est innocent, finalement.
Alors, maître, il y a tout de même ces témoins, je l'ai dit, qui l'ont vu ensanglanté. Il y a le fait qu'il travaille pas très loin de cette butte SNCF. Un petit témoin l'a vu aussi monter sur une bicyclette. Ça fait quand même beaucoup, non?
Oui,
Ça fait beaucoup, pas
tant que ça. On a le PV de M. Abgrail, vous l'avez évoqué. On a les pêcheurs, on va les appeler comme ça, puisqu'ils étaient deux, on a toujours dit les pêcheurs. C'est quand même des gens qui se manifestent extrêmement tard, et on se demande pourquoi. Je veux bien que Francis Holm ne soit pas apparu immédiatement sur la scène publique, mais enfin, à partir du moment où il est incarcéré, c'est bon, je veux dire, tout le monde pouvait se manifester. Or, personne ne se manifeste. Le PV de M. Abgrail, j'ai jamais vu ça en 40 ans d'exercice de la profession. Un gendarme qui recueille d'un type qui considère déjà comme un meurtrier ce genre de déclaration, et il les note pas, nulle part, même pas dans un brouillon, rien. Il en parle seulement des années après, à la demande de la défense d'un autre accusé, qui sera évidemment acquitté, mais défense qui fait son travail, quoi. C'est normal. Mais je veux dire... L'enquêteur sollicité par la défense d'une des parties, c'est quand même original.
C'est-à-dire que ce que vous nous dites, et vous allez le répéter d'ailleurs au procès, c'est qu'on a Holm sous la main et que ça arrange tout le monde. C'est ça que vous nous dites, maître, tout simplement.
ça arrange tout le monde et ça ne dérange personne. Francis Holmes, quand il est mis en cause pour l'affaire des enfants de Montigny, il est déjà condamné à perpétuité, mesure de sûreté maximum. Hein. Mmh. Donc ça veut dire que cette affaire, au sens de la peine, ça ne va pas changer son destin.
Hein. Oui, tout à fait. Nicolas Bastuc, encore une petite question. Je l'ai dit, Dils innocent, des questions autour de la présence de Holmes, ou en tout cas de sa culpabilité, un dossier qui paraît être un peu mal en point. C'est pas terrible comme départ, non?
Alors vous disiez, ça arrange tout le monde. Non, ça n'arrange personne, puisque à Metz, à Montigny-les-Metz, et dans les milieux judiciaires, la culpabilité de Patrick Dils ne faisait aucun doute.
Non, je ne parlais pas de Dils. Hein. Mais, non, on est d'accord. Voilà. Il n'y a pas de Dils n'est pas coupable, etc. Il a été acquitté. Oui. C'est pas la question. Je parle du dossier lui-même. Il y a des questions sur Holmes, effectivement, qu'on peut se poser légitimement. Ça, c'est pas si clair que ça.
On n'a pas d'aveu. Voilà, c'est ça. Mais on a un certain nombre d'éléments pouvant laisser penser qu'il est compromis dans cette affaire. Il travaillait tout près de là, effectivement, ça n'en fait pas un coupable. Il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Jury 15 jours après. On sait qu'à chaque fois qu'il a commis un meurtre, il a été interné quelques jours plus tard. Devant les gendarmes qui ont réalisé le supplément d'information ordonné par la présidente de la cour d'assises du Rhône, il a fait un schéma quasi parfait des lieux du crime. Les enquêteurs ont évoqué, alors ça c'est vrai que ça a été un peu sujet à caution parce que c'est pas un élément de preuve intangible, mais ils ont évoqué la quasi-signature criminelle de Francis Holmes. Donc il y a des éléments. Je dis pas qu'il est coupable, c'est pas moi de le dire, mais on peut pas dire que le dossier était vide.
Francis Holmes reste sur ses positions. Il répète que pour Montigny-les-Metz, ce n'est pas lui qui a tué. Il ne va toutefois pas échapper à un procès qui va être l'objet d'un incroyable coup de théâtre. Mardi 1er avril 2014 s'ouvre pour Francis Holmes un procès prévu pour durer 3 semaines. Il doit répondre des crimes de Cyril Benning et Alexandre Beckricht, massacrés tous deux à coups de pierre au mois de septembre 1986. Un double meurtre qu'il ne reconnaît pas. Avant même l'ouverture des débats, le planning des audiences a été complètement chamboulé. Et la perplexité s'est emparée de la salle d'assises. 28 ans après les faits, deux témoins, un retraité de la SNCF et une claire d'avocats, sont entendus. Le premier affirme avoir vu un dénommé Henri Leclerc courir à l'heure du crime avec un t-shirt maculé de sang. La deuxième témoin indique que le même Henri Leclerc lui a raconté, rouge et en transe, comment il avait agrippé et peut-être même gifler les enfants sans déclarer qu'il les avait tués. Leclerc est loin d'être un inconnu dans le dossier. En 1986, à deux reprises, cet employé d'imprimerie qui travaillait près du talus SNCF a avoué les meurtres, mais ses propos n'avaient pas été jugés fiables. Leclerc est-il le tueur? Accompagnait-il Holmes ce jour-là? Un coup de théâtre. L'affaire se retrouve tout de suite sans dessus-dessous. Mercredi 2 avril, deuxième jour du procès, le fameux Henri Leclerc est entendu de manière anticipée. L'audition tourne vite en rond. « Moi, j'ai rien vu. J'étais pas là. » Il dément avoir attrapé les enfants. « Ce que j'ai dit, c'était faux. C'était n'importe quoi. Je les ai pas tués. J'étais pas là. » Appelé à s'exprimer, l'accusé Francis Holmes accable le témoin Leclerc. « J'ai vu un homme violent qui descendait le talus. Il m'a fait peur. » Il avait du sang sur le t-shirt et le pantalon, c'était bien Henri Leclerc. Un Leclerc qui affirme n'avoir jamais vu Francis Holmes de sa vie et ne le connaît pas. Selon lui, Holmes ment. Le ministère public estime que le dossier en l'état ne peut pas être jugé. Un complément d'enquête est nécessaire. Il pourrait exister des charges contre une autre personne, estime le président de la cour d'assises. Le procès est renvoyé. Maître Liliane Glock, vous êtes en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui. Vous êtes l'avocate de Francis Holmes. Incroyable coup de théâtre devant une cour d'assises. C'est peut-être même du jamais vu à ce point-là. Vous l'avez senti venir, ce coup de théâtre? C'était prévisible?
Non, pas spécialement, mais si vous voulez, moi je suis tout à fait étrangère à cette histoire-là. Moi je ne défends pas Francis Holmes en accusant Henri Leclerc.
Ah, je ne dis pas ça, mais je pose simplement la question de savoir...
Oui, l'émission, c'est un peu un réquisitoire contre Francis Holmes, avec assez peu de possibilités de répondre, en tout cas moins qu'au tribunal. Et si vous voulez, moi, cet épisode Leclerc, Francis Holm, en effet, l'a accusé à l'audience. Si je me souviens bien, il a parlé d'un type rougeau ou qui était rouge dans la figure, quelque chose d'assez imprécis. Soit dit en passant, quelque chose de pas très sensé, hein, pour dire la vérité. Et moi, je l'ai jamais soutenu là-dedans. Hein. Ouais. Mais c'est un des gros problèmes de cette affaire. On peut faire dire n'importe quoi à Francis Holm.
Oui,
c'est
alors,
un gros problème.
Au-delà du problème Francis Holm, ce que je veux dire par là, c'est que là, il y a tout de même l'apparition d'un deuxième homme possible. C'est troublant, maître.
Et puis, il y en a d'autres dont on n'a pas parlé, parce qu'en dehors de Patrick Dils, qui est définitivement acquitté en garde à vue, il n'y a pas lui, que lui qui a passé des aveux. Hein. Il y en avait encore un autre aussi.
Oui, on en a parlé un petit peu au début de l'émission.
Donc, il y a du monde dans le dossier.
Hein. Oui, donc ça ouvre des perspectives. Nicolas Bastuc, journaliste au Point, et vous aviez suivi cette affaire à l'époque pour l'Est républicain. Qui est cette Henri Leclerc ? Il y a beaucoup de choses qui tout de même le mettre en scène dans cette histoire.
Disons que son nom revient tout le temps. Mmh. Effectivement,
et depuis le début,
Maître Glock vient de le rappeler en 86, il est l'un des trois, avec Patrick Dils et le dénommé Grabeau, qui ont effectivement reconnu les faits. Lui a été mis hors de cause ensuite par l'inspecteur Varlet et ses coéquipiers. En 92, quand Francis Holm est arrêté par le gendarme Abgral et interrogé par lui, et qu'il commence à évoquer son périple criminel, il parle d'un Leclerc-Henri.
Ah oui.
Il en parle. Alors, Holm mélange toujours les lieux, les situations. Est-ce qu'il le fait sciemment ou pas? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il n'est pas suffisamment structuré pour avoir une chronologie précise. En tout cas, il parle de Leclerc-Henri. Et puis, pendant le supplément d'information, Holm sera réentendu. Et effectivement, il cite nommément Henri Leclerc.
Henri Leclerc. Leclerc, il est dans le...
Ça n'en fait pas un coupable. Hein.
Non, et on verra ce qui va devenir de lui dans la suite, dans cette heure du crime. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cet Henri Leclerc, il y a un fil rouge, hein, finalement.
Bah, tout à fait.
C'est un des acteurs, malgré lui, peut-être.
Malgré lui, ça c'est sûr. Il est là de bout en bout.
Oui, c'est ça.
Donc, c'était un peu le gardien des poubelles qui était situé au bas du talus et dans lequel Patrick Dils allait chercher des timbres. Et il ne supportait pas que les enfants aillent mettre un peu le bazar dans ces poubelles.
Et encore une question, Nicolas Bastuc, là, avec ce coup de théâtre, les familles, elles sont totalement dans l'expectative, ça fait des années qu'elles attendent d'avoir la vérité, la vérité leur échappe à nouveau.
Oui, alors elles sont dans l'expectative, il y a quand même un clivage entre les deux familles, la famille du petit Alexandre est convaincue, et sera convaincue jusqu'au bout, sans doute l'est-elle encore, de la culpabilité de Patrick Dils, qui a été définitivement innocenté par
et blanchi,
la justice.
Il faut le répéter.
Madame Bénin, elle, ce qu'elle veut, c'est la vérité. Mmh. Et ce qu'elle dit quand Patrick Dils est acquitté, c'est si c'est pas Dils, ok, d'accord, je m'en remets à la décision des cours d'assises, mais alors qui ?
Après ce coup de théâtre, Francis Holm va devoir attendre 2 ans pour être fixé sur son sort, 2 ans pour savoir s'il comparaîtra seul ou en compagnie d'un complice. Ce mardi 25 avril 2017, Francis Holm est tout seul dans le box des accusés de la cour d'assises. Henri Leclerc, le manutentionnaire de Montigny-lès-Metz, reconnu par des témoins, n'a finalement pas été renvoyé, pas assez d'éléments contre lui, a conclu la chambre de l'instruction. Holm, seul accusé, continue à dire qu'il n'a rien fait dans ce dossier. La seule personne avec qui il communique vraiment, et ce depuis toujours, est sa sœur Christine. Elle vient témoigner, raconte l'enfance misérable de la famille, décrit ce frère, éternel solitaire, n'ayant qu'une passion, le vélo. Francis est devenu un vagabond. Il a fait sa route et rencontré les mauvaises personnes, dit-elle. Christine s'adresse alors à son frère. « On va y arriver. Tu es dans un tunnel, là. Mais es-tu capable de me dire si c'est toi, Francis, pour Montigny-lès-Metz ?» Holm se lève, la regarde et répond « Non, ça n'est pas moi. » 31 ans après les meurtres de Cyril et Alexandre, le dossier d'accusation apparaît dans le plus parfait désordre. Le président de la cour a hérité d'une procédure incomplète et approximative. Il a même du mal à obtenir les heures précises des décès, c'est dire. Les médecins appelés à la barre ne se souviennent plus. Plusieurs témoins manquent à l'appel. 5 ne viennent pas, 2 sont morts, d'autres sont vieux et malades. Le chef d'enquête, Bernard Varlet, en prend pour son grade. Le président lui reproche de n'avoir versé dans la procédure aucun portrait
robot, aucune fiche photographique, de n'avoir pas noté la présence du dénommé Francis Holm sur place, de ne s'être intéressé qu'à Patrick Dils, au point de lui mettre le grappin dessus. Les familles de Cyril et Alexandre apparaissent éreintées par toutes ces années. Le 17 mai, Holm est condamné à la perpétuité. Nicolas Bastuc, journaliste et aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, vous avez suivi toute cette affaire et vous connaissez très bien ce dossier. Il y a une énorme surprise quand même. Le fameux Henri Leclerc n'est pas là. Qu'est-ce qui a pu se passer? On est un peu surpris par cette absence quand même.
C'est l'appréciation souveraine des juges du fond. Comme disent les juristes...
De la chambre de l'instruction, c'est ça?
Oui, en 2006, le juge d'instruction refuse de renvoyer Holm aux assises, estimant que les charges sont insuffisantes. La chambre de l'instruction, 10 ans plus tard, refuse de renvoyer Henri Leclerc, estimant que les charges ne sont pas suffisantes. Et que dire de plus? Il y avait des éléments troublants. Voilà.
Il faut bien le souligner, ça, parce qu'effectivement, il y avait des éléments troublants concernant Henri Leclerc. Je ne dis pas contre lui, mais en tout cas, qu'il y avait un faisceau d'indications qui pouvait le conduire aux assises, il faut le dire comme ça.
Voilà. Ces éléments constituaient-ils des charges suffisantes? Les juges ont dit non. C'est un peu tout le drame de ce dossier. Il n'y a pas de preuves matérielles. C'est un dossier qui, dans un premier temps, est construit sur des aveux. Et dans un deuxième temps, je parle de la procédure qui visait Francis Holm, est construit, vous l'avez dit, sur des faisceaux.
Sur des faisceaux de présomption.
Sur des constructions intellectuelles, des raisonnements, sur des intuitions.
Donc c'est fatalement Nicolas Bastuc un dossier bancal, on est bien d'accord. Un petit mot quand même. Attendez, il n'y a pas d'ADN à l'époque. Hein.
Alors non, il n'y a pas d'ADN. On est 2 ans après l'affaire Grégory. Et comme dans l'affaire Grégory, il n'y a pas d'ADN, les scellés sont détruits, c'est un peu la pagaille, la scène du crime est plus ou moins préservée. Donc ça c'est sûr, un dossier qui n'est construit que sur des aveux est forcément un dossier bancal. De même qu'aujourd'hui, un dossier qui n'est construit que sur une empreinte ADN, on n'a pas le temps de l'évoquer, mais est aussi un dossier, bancal. Hein.
Bien sûr. Maître Liliane Glock, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, avocate de Francis Holm. Quel est le visage de votre client à ce procès? Il continue, lui, à dire « je n'y suis pas, je n'y suis pas », il va même le dire à sa sœur.
Oui, bah c'est sûr que c'est la seule chose qui soit vraiment constante chez lui. Hein. Bon, il a toujours contesté ça. Et comment voulez-vous prouver qu'il n'a rien fait? Si vous avez une méthode, dites-le-moi.
Oui, c'est effectivement un reverso, comme on dit.
Qu'est-ce que vous voulez dire? On vient m'avancer un faisceau d'éléments. Mais ce faisceau d'éléments n'est un peu pertinent que parce qu'il concerne Francis Holm. Les mêmes éléments contre M. Dupont, travaillant dans l'entreprise du coin, on trouverait que ce n'est pas pertinent. Il habite juste à côté. Ben oui, bon, si ce n'était pas Francis Holm, on ne le dirait même pas. On vient dire... Le crime porte sa quasi-signature. Mais c'est pas vrai du tout. Malheureusement, je le dis sans faire d'ironie, parce que c'est triste, il n'a pas de quasi-signature. Et c'est l'expérience démontre qu'il a tué n'importe qui, n'importe quand. Voilà, quand même. Donc parler de quasi-signature, c'est se moquer du monde. Voilà, tout est comme ça. Alors le faisceau, il est comme ça.
Francis Holm reprend le chemin de la prison de la centrale d'Ansisheim en Alsace, frappé d'une nouvelle condamnation. Les familles n'en ont pas fini pour autant avec ce marathon judiciaire. Le condamné a fait appel. Le 4 décembre 2018, Francis Holm est à nouveau confronté en solitaire aux photos des deux corps ensanglantés des petits Cyril Bénin et Alexandre Beckrich. Il ne bronche pas, il ne varie pas dans ses déclarations, il n'a rien à voir avec ses meurtres. 3 semaines d'audience n'apportent aucune révélation majeure, comme si cette fois, le dossier était définitivement figé. Sans grande surprise, Holm est à nouveau condamné à la perpétuité. Chantal Bénin, la mère de Cyril, souffrant depuis des années d'un cancer, craignait de mourir sans connaître la vérité. Elle s'éteindra quelques mois après la condamnation.
Mon combat est terminé, voilà. J'étais jusqu'au bout. Je l'ai promis à mon Cyril que maman irait jusqu'au bout. Et puis vous savez, de ressasser quand vous entendez comment votre gosse a été tué, c'est très très dur. Je le souhaite à personne, à personne.
En juin 2020, après le rejet du pourvoi formé en cassation par la défense de Holm, Jean-Claude Bénin, père de Cyril, se déclare soulagé tout en émettant quelques réserves. « Je me demande toujours qui a frappé les enfants car je suis sûr que Holm n'était pas seul. » Maître Dominique Rondu, avocat de la famille Beckrich, déclare de son côté « C'est une affaire qui se clôture définitivement mais qui nous laisse un goût amer. Maître Liliane Glock, avocat de Francis Holm, un goût amer, un goût d'inachevé, une histoire sans fin, c'est un peu comme ça que vous voyez cette procédure très longue?
Ben écoutez, moi oui, évidemment, puisque mon client a toujours contesté, mais j'observe à écouter Madame Bénin, ce qu'il y a quelque chose quand même d'émouvant. Cette dame étant morte maintenant, ça fait quelque chose. Et si vous voulez, l'audience à Metz avait été assez particulière parce que elle avait engagé le dialogue avec Francis Holm à l'audience. Et ben je vois que je suis pas seule à me poser des questions.
Dites-nous un mot sur ce dialogue qui avait été engagé par Madame Bénin avec Francis Holm, parce que c'est un moment important et très émouvant, je crois.
Oui, et puis c'est assez extraordinaire quand même.
Bien sûr.
Cette femme, on lui présente celui qui est considéré comme le meurtrier de son enfant. Et elle engage le dialogue avec elle, avec lui, pardon. Je crois que Madame Bénin, en dehors de la culpabilité ou pas, Madame Bénin a saisi la personnalité de Francis Holm. Et elle a réussi à entrer en communication avec lui. Ce qui n'est quand même pas une évidence, vu leurs positions respectives
Bien sûr.
Elle s'est avancée dans le prétoire. Le box à Nancy est au niveau, tout le monde est au même niveau, c'est pas une estrade. Et voilà, ils ont dialogué. On n'était plus dans un tribunal, quoi. C'était assez extraordinaire.
Et elle aurait souhaité
Nicolas Bastuc.
Oui, Madame Bénin aurait souhaité rencontrer Francis Holm en prison pour poursuivre avec lui ce dialogue.
Vous confirmez, Liliane Glock,
Je sais que ça se fait dans d'autres pays. En France,
c'est un peu plus compliqué, bon. Bien sûr.
Mais il y a d'autres systèmes juridiques qui connaissent ça. Moi, je dois dire, je ne me serais absolument pas opposée.
Tout à fait. Maître Glock, je sais que vous êtes régulièrement en ligne, téléphonique, en conversation avec votre client, Francis Holm. Dans cette histoire, est-ce qu'il vous parle encore de cette histoire aujourd'hui ou il a zappé, il a effacé tout ça?
Un petit élément qui est peut-être anecdotique. Il a reçu une convocation devant la chambre de l'instruction de Versailles, parce que le parquet général voulait détruire ce qui restait comme scellé. Et je lui dis, vous voulez qu'on fasse quoi qu'on... Ah, il dit, je veux pas. Il s'est opposé. Et la cour lui a donné raison.
C'est une
très petite victoire, mais la cour lui a donné raison et a refusé au parquet général la destruction des scellés qui restent, parce qu'il ne reste plus grand-chose.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que malgré ce qu'on peut dire de Holm, c'est-à-dire ses délires, ses espèces d'interprétation des faits, etc., sur cette histoire, il a une constante, ça on peut le souligner, coupable pour la justice, mais il a une constante.
L'affaire du malheureux enfant Viville, il a reconnu pendant un bon bout de temps, pendant des années. Et à un moment donné, à l'occasion d'autres affaires, il a dit « ben non, c'est pas moi ». Donc il est revenu là-dessus. Mais en ce qui concerne les enfants de Montigny, il n'y a pas de variation.
Nicolas Bastuc, je vous repose presque la même question. Il y a un goût quand même d'inachevé dans cette histoire. On a l'impression, on vous le disait au début, il y a peut-être un deuxième homme, c'est tout à fait possible. Celui-là, on ne l'a pas trouvé en tout cas.
Oui, il est inexact juridiquement de dire que l'affaire est définitivement close. Il y aurait deux possibilités. Francis Holm pourrait toujours introduire une requête en révision si des éléments nouveaux apparaissaient. Et puis, si, à contrario, des éléments à charge, des charges nouvelles, étaient mises au jour concernant Henri Leclerc ou d'autres, eh bien l'affaire pourrait être rouverte sur charge nouvelle. Donc, effectivement, pour le moment, il semblerait que l'apaisement judiciaire ait fonctionné, et que le dossier soit refermé. Mais juridiquement, il y a la possibilité toujours de le rouvrir.
Tout n'a pas été dit, peut-être, dans cette histoire.
La justice a...
Il y a des gros points d'interrogation encore. On est d'accord,
il y a une vérité judiciaire. Il y a une vérité judiciaire.
Holm a été jugé, il a été condamné, on est d'accord.
Oui.
Mais tout de même, il y a toujours cette espèce de sentiment encore de doute et de questionnement qui perdure.
Forcément, vous l'avez rappelé, il a fallu 33 ans pour arriver à une décision. Une décision qui arrive au bout de 33 ans et forcément... un petit peu fragile.
Merci beaucoup Nicolas Bastuc et maître Liliane Glock d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Bonjour, c'est Cindy Hubert. Alors que s'est ouvert le procès le plus long de l'histoire, celui des attentats du 13 novembre, nous vous proposons d'écouter certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Policiers, rescapés, médecins, ils nous racontent leur 13 novembre dans notre podcast « Le procès du siècle ». Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.